Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Bonjour à toutes. Oui, je suis bien. C'est bien. Vous avez passé tout ce qu'il faut, un bon week-end.
Et oh, oui. Et bon,
très bien. Très bien. Voilà. Oui, moi aussi, j'ai passé un assez bon week-end. Alors, je me demande si Mme Laurence Rossignol, qui est socialiste, ne va pas être taxée d'extrême droite maintenant. De fasciste, fascisante au
Qu'est-ce
moins.
Qu'est-ce qu'elle a dit ?
Mais parce qu'elle est en pointe, et alors là, je la rejoins tout à fait là-dessus, elle est en pointe pour lutter contre l'accès des mineurs à la pornographie sur Internet. Parce que ça fait des dégâts, la pornographie sur les mineurs. Vous vous rendez compte, ils n'ont qu'une vision absolument brutale, bestiale de la sexualité, parce qu'ils vont sur ces horribles sexes, réseaux, enfin, c'est des sites voilà, pornographiques absolument lamentables. Et Mme Rossignol voudrait absolument, elle est en pointe pour combattre cela. Alors comment faire, c'est très difficile. Alors évidemment Internet c'est planétaire, donc si on fait ça tout seul dans son coin, c'est comme les questions de climat. Si on s'y met pas tous, on va pas avancer beaucoup. Il y a un tas de sujets planétaires qui pour lesquels la planète entière n'est qu'un village finalement. Et ben la pornographie via Internet, c'est ça aussi. Alors je sais pas comment on peut faire. Alors elle propose quelque chose. À quoi je souscris pleinement, c'est-à-dire que elle dit on devrait commencer par exiger d'abord que les plateformes fassent le ménage, mais ça on y arrivera plus ou moins parce que encore une fois c'est planétaire et que tout seul on n'y arrivera pas nous dans l'Hexagone seulement. Et elle dit il faudrait quand même interdire l'accès au site Internet de manière anonyme, c'est-à-dire que les adultes devraient avoir accéder à Internet avec leur nom, leur véritable nom. Alors on dit, on tolère, atteinte à la liberté, à la vie privée et tout ça. Mais je trouve qu'elle a raison. Et ben, ce qu'ils assument, c'est les adultes qui veulent aller sur les sites porno, après tout, ils ont le droit, hein, ils sont adultes, ils veulent consommer du porno, ils consomment du porno, mais sous leur nom, ce qui permettrait de faire le tri.
Avec l'adresse IP, de toute façon, on vous retrouve. Hein. Franchement,
oui,
je vois
non,
pas.
Mais pour activer l'adresse IP, il faut une procédure. On ne peut pas l'activer comme ça de son propre chef. Tandis qu'elle dit, ça te ferait déjà un tri et ça permettrait de savoir si la personne qui regarde est effectivement celle qui dit regarder. Ce serait un outil déjà. Ce serait très dissuasif. Elle a raison. Enfin, de toute façon, il faut faire quelque chose.
Mais déjà, c'est par rapport aux parents. Comment un gamin arrive à aller sur des sites pornographiques ? Attends, pendant une heure et demie, t'arrives à visionner un film porno. Moi, je suis désolée. Moi, je regarderais à la télé, quand j'étais jeune, un film porno, parce qu'il n'y avait que la télé, hein, on n'avait pas Internet à cette époque. Bah, ma mère, elle le voyait tout de suite quand même.
Ah oui, mais ça, c'est parce que vous êtes dans une cellule familiale qui existe et qui est cohérente et qui est structurée, voilà. Mais bon, mais il y a plein de gosses, ils sont des heures et des heures livrés à eux-mêmes.
Franchement, moi, quand j'avais 15 ans, j'avais vraiment pas envie de regarder un film porno. Hein.
Ah oui, mais non, mais...
Je sais pas, moi, qu'est-ce qui leur passe dans leur tête d'avoir envie de regarder des films porno.
Mais c'est un des aspects de l'effet de meute. Je parle le syndrome de la meute, c'est-à-dire qu'ils sont à l'école, il y a un gars qui se vante ou une fille qui se vante d'avoir vu un film porno, t'as vu, et puis ceci, puis il fait cela, puis elle fait ceci, puis elle fait cela, donc il rentre chez lui, il regarde. Voilà, puisque les autres l'ont vu, moi je dois le voir. Enfin, il y a cet effet-là, cet entraînement d'effet de meute qui est si, si important chez les jeunes.
Qu'ils apprennent voilà. L'orthographe avant de regarder des films porno, je vous le dis, moi.
Oui. Commencez, mon
petit. Non, mais moi je vois pas la tête. En plus, au bout de deux minutes, vous vous ennuyez, hein, franchement.
Oui,
en plus.
Oui.
Mais je vois pas comment. Comment on peut régler ce problème ? Parce que les parents, par exemple Canal+.
Oui.
Canal+, je crois, diffuse encore des films porno à une certaine heure ou je sais pas quoi, non ? Je sais plus. Bah, il faut un code systématiquement pour pouvoir y accéder.
Oui, bah, apparemment, il n'y a pas ça sur
Internet.
Voilà.
Si vous dites oui, j'ai bien 18 ans.
Mais alors, c'est l'aveu, encore une fois, qu'on n'a aucun pouvoir sur ces GAFAM, sur ces sociétés mondialisées, multinationales, qui en fait nous dictent notre vie, entrent dans notre vie, et contre lesquelles le politique, la politique ne peut rien, enfin, est en perte totale de pouvoir, de puissance, est obligé de se soumettre en permanence. C'est l'ère de la soumission en permanence. C'est dramatique. C'est dramatique.
On se retrouve tout à l'heure, Dominique. Oui. Alors, pour continuer.
Ben, Monsieur Mélenchon a du souci à se faire, quand même, y compris dans son propre camp. Dans son propre camp, c'est-à-dire qu'il...
Bon, en fait, il soutient tout le monde, Mélenchon. Donc, vous avez vu celui qui faisait encore un appel à la décapitation de Monsieur Macron.
Oui.
Encore la semaine dernière.
Oui, oui. Mais il devrait être en tôle.
Oui, mais c'est un urgentiste, je crois qu'on en a besoin.
Oui, non, mais...
Il est urgentiste et conseiller régional.
Urgentiste, conseiller régional, il appelle à la décapitation.
Ouais.
Et il n'est pas en tôle.
Bon, on va voir. On va voir, je pense, que j'espère qu'il aura une...
Mais il comparution immédiate et on le met en tôle. Vous vous rendez compte, on est en France, on a décapité un roi, on a la guillotine, a fait des milliers
de morts. Vous ne vous souvenez pas de Raquel Garrido? Raquel Garrido qui avait retweeté par rapport aux Gilets jaunes de Caen qui avait demandé à la décapitation de Monsieur Macron au moment des Gilets jaunes en janvier 2020, elle n'a rien eu.
Oh non, mais c'est abominable ça. Après la décapitation, vous savez, il faut se méfier ça, je dis souvent cela, mais c'est vrai, les mots deviennent des actes.
Ouais.
À force de dire, on finit par faire. Hein. Je cite souvent cet exemple de 1789. En 1789, quand les partisans de cette révolution, enfin ou de l'avènement d'une monarchie constitutionnelle, enfin d'une révolution soft, douce, disent des têtes vont tomber. Ils pensent pas que ce sont des têtes qui vont effectivement tomber physiquement.
Ouais.
Et puis les mots deviennent des actes et les mots deviennent des faits. Et à la fin, on guillotine. Eh ben, faut se méfier de ça. Et en tout cas, appeler à la décapitation, c'est quelque chose qui ne doit pas être accepté dans un pays où le débat libre, le débat démocratique peut avoir lieu. On ne peut pas agiter ce genre d'argument. Et alors, évidemment, il n'est pas exclu du tout de son parti politique.
Non, à ce jour, non.
Et est-ce que la présidence de son conseil régional a pris des sanctions?
Je ne sais pas, pour l'instant. Voilà. En fait, je n'ai pas suivi après l'affaire, parce que ça me choque tellement.
C'est extrêmement choquant. Mm. C'est extrêmement choquant.
Donc vous vouliez parler de Mélenchon, monsieur Labarre.
Oui, alors Mélenchon, ben justement, Mélenchon, il n'est plus totalement en odeur de sainteté au sein de la NUP. C'est-à-dire qu'avec une vivacité de compréhension politique foudroyante, des socialistes et des écologistes se disent « bon sang, mais c'est bien sûr, si on garde Mélenchon, on n'a aucune chance d'arriver au pouvoir ». C'est-à-dire que la France insoumise avec ses excès font qu'on devient pas on n'est pas une alternance crédible. Voilà. Donc ils s'aperçoivent de ça. Il est temps. Ça fait quand même plus d'un an qu'ils sont en bas.
Non, c'est-à-dire que pour avoir un poste, on accepte et puis après, on recule. Quoi.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est l'opportunisme politique.
Ouais, exactement.
Donc, il a quand même un peu de... Mais M. Mélenchon, j'en ai parlé pour sa réaction au couronnement. Enfin, il peut pas s'empêcher de parler. Il faut qu'il occupe l'espace parce que il s'est pas remis de la bourde politique qu'il a commise en ne devenant pas député. Ouais. Il n'est plus rien. Quoi. En fait, il n'a pas de tribune parlementaire. Il n'a pas d'autorité parlementaire, il n'a pas de légitimité parlementaire. Donc ça, il a fait une erreur qu'il ne se pardonne pas. Et il essaie de la combler en occupant le terrain, en l'occupant parce qu'il y a de plus excessif. Voilà.
On se retrouve tout à l'heure, Dominique.
Oui, oui.
Alors, pour terminer.
Ah, pour terminer, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour terminer, il y a plein de choses qui se sont passées récemment. Il y a eu les nationalistes européens qui se sont réunis en Hongrie et alors ils ont fait tout un pacte ensemble pour lutter contre la progression du wokisme. Alors ils ont décidé, et ils ont raison de le faire, une offensive contre le woke, contre cette idéologie qui se répand dans les universités et ailleurs. Et alors ils sont critiqués c'est toujours pareil, en disant, mais c'est les fascistes, le fascisme est en marche, la menace fasciste, la menace fasciste. Bon, je ne sais pas où elle est, la menace fasciste, enfin bon. Mais ils ont raison de prendre cet axe-là. Et alors, j'entendais Thomas Legrand sur France Inter accuser tous ces gens-là de ne voir, d'inventer la menace du wokisme. C'est-à-dire que ce serait une théorie du complot de l'extrême droite et des fascisants, bien entendu, que de parler de la menace du wokisme, parce que en fait, la vraie menace, ce serait évidemment le climat, ce serait évidemment l'Ukraine et Poutine, ce serait je ne sais quoi d'autre, puis surtout, ce serait justement cette montée du fascisme, c'est ça les vrais dangers. Donc le wokisme serait une invention de l'extrême droite, la menace du wokisme, pour masquer en fait les vraies menaces que sont le climat, et c'est sûr que le climat ne va pas bien, et puis surtout la montée du fascisme. Enfin, c'est l'inversion, vous savez, des périls. C'est l'inversion des périls, c'est-à-dire on accuse l'autre d'instrumentaliser un péril pourtant réel. C'est comme quand on dit le grand remplacement n'existe pas. Il y a pourtant des zones et des territoires entiers de la République qui ne sont plus des territoires de la République, où les populations ont changé, où des populations ont été obligées de fuir.
Ces gens-là, ils y vont pas dans tous ces quartiers.
Où des populations entières ont été obligées de fuir. Il y a des villes de Seine-Saint-Denis où il n'y a plus un seul membre de la communauté juive qui peut y vivre et tous sont partis. C'est bien le remplacement d'une population par une autre. Mais ça, on ne peut pas le voir. Vous savez, la semaine dernière, je citais Peggy. Il faut dire ce qu'on voit, et surtout, ce qui est plus difficile, il faut voir ce qu'on voit, c'est-à-dire ne pas se voiler les yeux et la face. C'est ce qu'ils font en permanence. Le wokisme est évidemment une menace extrêmement grave pour notre culture et notre civilisation. Et mais ils ont raison, c'est nationaliste européen de se réunir pour lutter contre le wokisme.
Oui, mais alors qu'ils fassent attention à leur exposition, c'est pas au Centre européen où il y a une exposition actuellement de photographies où il n'y a que des homosexuels avec des hommes
LGBT,
de couleur.
Tout ouais. Ça. Oui, si, ben bien sûr. Bien sûr. Ça plaît beaucoup à M. Thomas Legrand de France Inter et du service public de radio-télévision. Ça plaît énormément, la promotion de LGBT.
Bien moi, sûr. Je veux bien hein, qu'il y ait une exposition, pourquoi pas, mais...
Moi, je n'ai pas envie de la financer avec les impôts qu'on donne à...
Bah si, c'est la liberté d'expression, mais la fois suivante qu'on fasse, je ne sais pas, une exposition sur, je ne sais pas moi, une famille entière blanche, pas moi.
Ouais, mais ils vont vous objecter que depuis des siècles, c'est que la suprématie de l'art blanc, la suprématie de la représentation des blancs, l'hyper-représentation du mâle blanc, enfin, ils vont vous objecter tout ça.
Et que mais non, mais après, on aura une exposition avec des familles noires, avec les enfants.
Une famille.
Bah oui.
Famille. Famille, travail, patrie, le slogan de... Oh, personne ne sait ça, je crois. Mais travail, famille, patrie, c'était le grand slogan de Pétain, pendant les 40, la révolution nationale avec le maréchal Pétain et le régime de Vichy. Alors, ils ont fait le slogan travail, famille, patrie, et il y avait une très belle affiche. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que sur l'affiche, il y a trois personnes. Il y a une femme, un homme et un enfant. Alors, la femme, c'est une actrice... lesbienne militante, mais assumée, une actrice lesbienne qui dit ah ben, ça va mourir, ça faisait mourir de rire. L'homme, c'est un homosexuel avéré, à Vichy, il y en avait plein. Et l'enfant, c'est un gosse de l'assistance, qu'on a été chercher assistance publique. Et c'est les trois qui forment l'affiche famille travail.
De ma famille.
Ça m'a toujours fait amuser, cette anecdote-là.
Bon, on se retrouve demain.
Oui, absolument.
Même heure, même endroit.
Oui.
Prenez soin de vous, tous. Dominique également.
Oui.
Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain.
Oui.